Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nous revoici donc dans nos lectures en liberté pour la suite du roman de Jean Vautrin. Un grand pas vers le bon Dieu. Parfois, Edius Raquin, le vieux bougue lui-même, avait ses humeurs. À la maison, tiens, il supportait pas qu'on l'interroge sur ses activités. La veille ou le jour d'avant, n'importe, il s'était échoué après d'Azeline quand la caillette s'était risquée à le moquer de trop aimer la pêche aux quatre fiches bleues. Pour le taquiner encore plus gros, l'effronté était venu sous son bec le renifler. « Bah, sentirais-tu pas le tabac refroidi, Dad ?» Elle avait demandé. « Ou même la chic ?» Edius s'était monté sur ses grands chevaux. « Oh, petite fille, sûrement pas, mais rappelle-toi, mon cher bébé, demande à ta mère, à tante Nadée, à tout plein de gens, en 62 j'étais gamin. » J'ai fait un wish et c'est plus de 30 ans que j'ai pas roulé une cigarette. Exactement depuis que ce fumier de général Butler est venu s'essuyer les pieds devant la maison. Justement, quand je t'ai approché hier soir, ça puait si terrible quand retranché dans ton haleine que j'ai eu l'impression de croiser une compagnie de vétérans du Yankee Pelters. Après 6 mois de campagne, et je me suis dit comme ça, tiens, la guerre civile est terminée. Daddy vient de signer l'armistice avec le Nord. Sitôt, le vieux bougue avait fait mine de lui valser une tatouille. Il l'avait envoyé à sa boudinière, voir si par chance il se trouvait pas à la cuisinerie. La petite s'était remise à bourrer la tripe dans la corne de bœuf servant à la confection de la charcuterie et s'était bien gardée d'aggraver la chamaille. C'est que depuis qu'elle avait percé le secret de son poupa, elle courait première au rendez-vous se mettre le nez à plat ventre dans les herbes pour aller contempler son futur. Par ses manières d'homme traqué, Farouche Ferraille lui paraissait toujours aussi inquiétant. Mais il était le garçon le plus séduisant qu'elle eût jamais vu. Peut-être bien un peu âgé pour elle, ça la faisait rire un brin. La peau du cou était tannée. Elle lui donnait bien 40 ans. Une fois, elle l'avait surpris quand il lavait son corps dans l'eau de la fontaine, celle qui prend sa source dans le renfoncement du bois et qui fait une musique douce. Ses joues de jeune fille étaient restées allumées comme des lanternes parce qu'elle avait découvert sa racine d'homme, pas plus différente que celle d'un enfant quand il se lave. Elle était toute retournée d'avoir lu si profond en lui sans qu'il le sache ni rien. En le moment d'après, sa mauvaise conscience s'était transformée en confusion quand le grand blond en costume du premier jour s'était viré dans sa direction pour regagner son camp. Il était passé si près d'elle qu'elle aurait pu le toucher. Comme la première fois, il avait l'air méfié du moindre bruit. Il s'était immobilisé en passant à sa hauteur. Il sondait les broussailles, prêt à porter la main sur son arme. Vraiment, il avait tout l'air de la fixer. Ses yeux blonds s'étaient gravés sur elle. Elle avait fait comme les lièvres pour pas se faire tuer par le chasseur. Elle avait regardé ailleurs. Elle s'était mordu les lèvres jusqu'au sang. Mais elle n'avait pas respiré tout le temps qu'il l'inspectait. Encore une semaine ou deux plus tard, Edius Raquin était assis avec sa ligne au bord du trou rond. Il s'était posé sur les genoux d'un vieux cippe si usé que le tronc ressemblait à un coin de banquette. Farouche ferraille cromoulet se tenait en bas de la pente. Il avait trempé ses pieds à rafraîchir. C'était son habitude pour se sentir bien. Il s'était planté une herbe au coin de la bouche. La pêche l'intéressait plus guère. La chaleur ce jour-là était restée sur le sol malgré l'heure tardive, et chacun de son côté les deux amis jonglaient avec leurs idées. Ils se parlaient seulement pour le moonshine et le nécessaire. Le vieux hip qui était venu partager leur paresse apparente était gonflé. Il prétendait dormir, la tête entre ses pattes, mais ses neuils gigouillaient vers le haut pour suivre l'approche dans les airs d'une société de frappe d'abord, des moustiques énervés avec des dards féroces. C'était un temps vilain avec de nouvelles promesses d'ouragan, toutes les bétails étaient dehors, avaient mauvais caractère et s'en prenaient au vaillant monde. Crowley était d'humeur ennuyante. Il avait retiré son chapeau. Souvent fois, il passait sa main sur ses joues. Il s'énervait pour un rien. Trouvait les heures passaient pas. Si encore t'avais seulement rasé ta barbe, finit par grommeler Edius. Je t'aurais emmené dans mon habitation, je t'aurais donné des affaires propres, je t'aurais même présenté ma fille. Tiens, voilà ma propre fille, mais non, au lieu de changer de figure, tu préfères ressembler à un voleur de poules. » Ferraille a relevé la tête dans sa direction. L'idée lui a tiré un sourire. « Ah !» il a dit en malice. « Tu m'aurais donné ta fille en mariage, Pop. T'aurais fait ça pour moi ?»« Possiblement. Si t'avais enterré ton revolver, fils, si c'était venu rabourrer la terre. » Farouche ferraille Cromley s'est retourné, il a hoché la tête en amertume. Cultivateur. Excuse-moi, Pop, je crois pas que ce soit envisageable pour l'instant. Bon, qu'au faire pas. Peut-être que tu t'es rendu compte, vieux, j'ai une odeur comme un gibier. Un mois, deux mois passeront, puis les chasseurs de primes seront de nouveau après moi. Toujours ils finissent par remonter la piste. « Tonnerre m'écrase. Fous tout ça de côté, arrête de rouler de place en place et demeure avec nous. »« Bah, tu me proposes une vie pour laquelle je suis pas fait. »« Morfond Dieu, si t'aimes pas assez la belle terre grassée pour la travailler, personne t'oblige. Mais au moins, il te reste la vastitude pour chasser. Tu peux piéger. Là, et là, et là-bas. » T'as la savane, les bois, les levées de terre. Tu peux battre les mèches et les cyprières en compagnie du vieux hip. C'est un taillot. Il a l'air croche, mais il n'y a pas meilleur bétail pour le flaire. Il te fera tirer des siffleurs, des chipots, des dos gris, des rats des bois, ce que tu veux, et même les écureuils. Fais ça un an ou deux, t'as le temps, tu seras oublié des polices et je te donnerai ma fille. Farouche ferraille a hoché la tête encore. Il avait l'air affouli après un tel langage. On ne lui avait jamais tendu la main, à part pour le faire tomber. Avec un geste perdu, il essayait d'expliquer son impuissance à parler. Ses avant-bras retombaient le long de son corps. Soudain, il s'est gratté la tête derrière la nuque. « Mais, vieux !» « Vieux !» il cherchait à comprendre. « Pourquoi tu veux faire ça ?»« Oh boy, parce que c'est écrit dans ma tête, » s'ostinait Edius Raquin. « Parce qu'un jour, je bâtirai la grande habitation dont je t'ai parlé, et que chaque chose qu'elle a dans le bois, elle a un devoir à faire. Elle est destinée pour une cause, et toi, fiston, premier servi, t'es destiné. » « Moi, je te dis que t'es destiné envers nous autres. » Le lendemain, le jour d'après, un autre, tout le terrain que le vieux bougue croyait avoir gagné sur la morosité de son compagnon était comme une savane en friche. Farouche ferraille Crowley trempait toujours ses pieds à rafraîchir dans le trou rond. Mais la mélancolie l'embrunissait chaque fois davantage. Il restait planté des heures sans jaser. Il chacotait une petite branche, parfois faisait rien. Même un drink, il s'en foutait. Et plus souvent qu'à son heure, le vieux pop-raquin avait l'impression de l'ennuyer avec sa présence. Une fois tout de même, il était arrivé à sortir son ami des profondeurs de ce grand puits de découragement dans lequel il le voyait sombrer à vue d'œil. Il l'avait entraîné au bord de la rivière, près d'un filet d'eau grise, où il savait qu'on pouvait honorer ce joli bétail à pince mordante, appelé l'écrevisse par chez nous, en autre terme anglais « crawdad » dans les Arkansas, « mudbug » chez les Yankees et « crayfish » chez les savants. Tous deux étaient entrés dans l'eau et commençaient à s'amuser ainsi que des gamins pataugeant les pieds à la tempe et la tête ornée d'un sourire éclatant. Au bout d'un moment, le vieux bougre s'était écarté vers une rive. Excité par la pêche, il marchait sur un fond vaseux sans penser à la bravoure légendaire des écrevisses. Lorsqu'il jeta un cri amer, le gros pouce du pied mordu par une tataille bien carapassonnée. Et pas besoin de rappeler l'histoire de la plus illustre de ces bestioles qui, voyant arriver sur elle une locomotive lancée à vive allure, préféra vaillamment lever les pinces et s'attaquer au train plutôt que d'envisager la fuite. Ce qui compte véritablement, c'est que dans la fraction de seconde qui suivit l'exclamation de douleur lancée par Aedius dans le dos de Ferraille, ce dernier ait fait volte-face comme un démon en dégainant son arme. Ployé sur ses jambes, les deux bras tendus vers l'avant pour assurer l'équilibre de son tir, le bandit semblait avoir obéi à un instinct de préservation proche de la folie meurtrière. Il était prêt à faire feu sur un ennemi invisible. Son regard, réduit à deux fentes, cherchait la cible derrière la silhouette de Pop-Raquin. Ce dernier, frappé de stupeur en découvrant une attitude hors du commun chez un être qu'il croyait avoir suffisamment approché pour le bien connaître, s'essuya le front du revers de la main avant de céder au retour de postillon d'un rire sec et nerveux. « Hé, boy » s'étrangla-t-il dans sa gorge. « Range ta pétoire, tes explosifs. La guerre avec les Cherokees aura pas lieu. » Il se pencha dans l'eau pour ramener l'écrevisse et la brandit en l'air. Pour moquer mieux le grand blond, il gloussa même entre l'absence de ses dents. « Tu vois, tout le monde a des ennemis, même moi. » « Je les nomme. » L'autre n'était pas de cette humeur-là. Il est remonté sur les corps du bayou et, une fois ses bottes enfilées, n'a plus quitté des yeux la profondeur du bois. Il sondait l'arrière des cipes comme si quelqu'un se tenait en embuscade derrière le foliage. Même il était agité par un tremblement musculaire qui l'obligea à croiser ses bras sous ses aisselles. Dans sa fièvre folle, le grand diable murmurait en soi-même « Ni tranquillité, ni paix pour moi. Je ne me rendormirai jamais. » En voyant combien il était terrassé, Pop-Raquin l'avait rejoint à la hâte. Il essaya une fois de plus de lui parler raisonnable. « Si le mauvais coyote auquel tu penses aurait dû arriver jusqu'à toi, fils, sûr qu'il y a longtemps que ce serait fait. » « Ne crois pas cela, Pop, » dit farouche ferraille Crowley, en passant sa main tremblante devant la caverne de ses yeux. « Celui auquel je pense ne m'a pas quitté depuis Tucson. Au bout de mon sommeil, à la tombée du jour, il surgira. Il est en route, il vient, il est proche de l'endroit où je l'attends le moins. Son ombre me gouverne, sa présence obscurcit jusqu'au regard de mes amis. » « Un homme comme Scylla dont tu parles ne peut pas exister, fils. »«
Il existe, » dit Farouche en se jetant sur ses genoux. « Et depuis trop longtemps déjà, il boit l'amertume de ne pas me retrouver. » Il pencha soudain son visage halluciné à la rencontre du miroir de l'eau. Ses yeux dansaient sur l'étincelant de la rivière, éclairés comme s'il avait laissé échapper une lanterne au fond du courant. Presque, il claquait des dents.
Si tu savais comme on s'ennuie à la manée, tu m'écrirais bien plus souvent à la manie, couagon. Parfois je pense à toi si fort, je regrette ton âme et ton corps, je te regarde et m'émerveille. Je me prolonge en toi comme le fleuve dans la mer et la fleur dans l'abeille. Que devienne quand je suis pas là mon bel amour, ton front doux comme fine soie et tes yeux de velours. Te tournes-tu vers la côte nord pour voir un peu, pour voir encore ma main qui te fait signe d'attendre. Soir et matin je tends les bras, je te rejoins où que tu sois et je te garde. Dis-moi ce qui se passe à Trois-Rivières et à Québec, là où la vie a tant à faire et tout ce qu'on fait avec. Dis-moi ce qui se passe à Montréal, dans les rues sales et transversales où tu es toujours la plus belle. Car la laideur ne t'atteint pas, toi que j'aimerais jusqu'au trépas, mon éternel. Nous autres on fait les fanfarons à cœur de jour, mais on est tous des bons larrons cloués à leurs amours. Il y en a qui jouent de la guitare, d'autres qui jouent de l'accordéon pour passer le temps quand il est trop long. Mais moi je joue de mes amours et je danse en disant ton nom, tellement je t'aime. Si tu savais comme on s'ennuie à la manie, tu m'écrirais bien plus souvent à la manie, couagon. Si t'as pas grand chose à me dire, écris 100 fois les mots je t'aime, ça fera le plus beau des poèmes. Je le lirai 100 fois, 100 fois, 100 fois, c'est pas beaucoup pour ceux qui s'aiment. Si tu savais comme on s'ennuie à la manie, tu m'écrirais bien plus souvent à la manie, couagon.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Un grand pas vers le bon Dieu, Jean Vautrin. Il est celui qui me cherche, abdiqua Farouche Ferraille sourdement. Il est le berger qui me pousse devant lui. Il me rattrapera parce qu'il est de ma race, parce qu'il est mon accomplissement, parce que nous sommes soudés l'un à l'autre et que Dieu a lâché sur nous l'ardeur d'une même colère.
Un homme comme le tien ne peut pas exister, fils, répéta fermement Aedius en s'emparant des poignets de Farouche pour les empêcher de trembler.
Demande au soleil et demande à la pluie, vieux.
Celui dont je parle est infatigable. Il chevauche entre taillis et clairières. Il prend le chemin du serpent sur les rochers. Il remonte les eaux. Il inspecte le ciel. Il se lève. Il vide ses tripes. Il plante son bivouac en pensant à moi. Et son esprit, obsédé par ma mort, divague jusqu'à la limite extrême de ses forces. Échappant à la poigne de Raquin, le grand blond se jeta dans les herbes. Après avoir plaqué son oreille contre le sol pour s'assurer que nul cavalier n'approche, il se redressa. Toujours il tremblait. « Tu crois que je vois le danger partout où il n'existe pas ? » interrogea-t-il, le dos obstinément tourné. Hein, « c'est ça, tu crois que je l'invente ?»« Non, non, » lui répondit Edius, avec dans la voix une certitude moqueuse. « Le danger est partout, fils. » Tiens, par exemple, il y avait aussi un ou deux petits serpents d'eau dans la rivière où nous étions, mais ils ne mangent guère qu'une demi-grenouille tous les deux jours. Le regard de Crowled dériva lentement sur le vieux crocodile, et il détesta le sourire innocent qu'il lut sur son visage. Edius juta un trait de salive devant lui. « Mom, « je crois rien qu'est à craindre, mon beau, » dit-il en essuyant ses lèvres avec le dos de sa main. « À part ta crainte. » Crowley se mit en marche, l'air furieux. « Garde ton amitié, sacré couillon, vilain piège à rat, » bougonna-t-il en se détournant d'Edius qui s'acharnait à le suivre. « Eh hop, aïe, comme tu galopes, comme tu voyages !» gueulait le vieux Cajun, en courant sur ses mollets plus grêles que ceux d'une virvire des marécages. Il était essoufflé, malgré toute sa vaillantise. « Fils de putain !» il a fini par annoncer. « Si tu veux prober la différence d'âge qui se fait entre un vieux faiseur de foin et un jeune homme bien corporé, fier de sa force, pas besoin d'être maître d'école pour désigner le winner. C'est toi qui vas gagner !» Trois pas pour un, et sa main pour tenir son chapeau, il galopait quand même derrière le grand bandit Crowley. « Qui tu veux ?» demanda ce dernier sans s'arrêter. « Mais qui tu veux à la fin ?» Il était hors de lui-même. Edius s'éleva à sa hauteur. « Écoute, je vais te dire quoi. Je comprends bien que tu sois comme un poisson d'eau salée qui peut pas vivre en eau douce. Mais si tu vas te lever et partir d'ici, tu vas marcher jusqu'à la fin du monde. » Le grand bandit Crowley serra ses mâchoires. Il accéléra encore la longueur de ses pas. Cette fois, il s'était mis à courir. « Ces temps-ci, I guess nous avons des siècles de retard avec une bonne cuite, » s'entêtait le vieux agriculturiste en s'efforçant de refaire le terrain perdu. Farouche Ferraille Crowley le prit à la sourdine. Il s'arrêta net. « Lâche-moi au diable, vieux fou !» « Et garde ta cuite » jeta-t-il hargneusement. « Ta chanson du cœur m'affaiblit chaque jour davantage. Je ne la supporte plus. » Le vieux Tom Raquin recula jusqu'au biais d'un arbre. Peut-être qu'il avait besoin d'un soutien. « Sûr, ça fait chagrin quand tu dis ça, fils » murmura-t-il avec une fissure d'émotion dans la voix. « Est possible que ma compagnie de moulins à sirop suffise pas à l'apaisement de ton âme. Je préférerais être en enfer plutôt que là où vous êtes. Tu te conduis pas comme il faut, fils. Ça m'est égal, j'ai une grande affinité pour le mal. Oh, même si t'es empli de vilaines manières et bourré de mauditerie, je veux croire que c'est plutôt ton humeur qui s'abîme. Déjà, elle te conduit vers des jours affreux. L'autre ne répondit pas. Il était sur le point de s'éloigner, comme s'il avait le vent avec lui. « Eh, une chose encore, garçon, » a dit Edius en l'escouant par le pan de son gilet pour l'empêcher de partir. « J'apprécierais beaucoup si tu me fais connaître le nom du malpris qui fait de ta vie une pareille désolation. » « Palestine Northwood !» a dit vitement Farouche Ferraille Crowley. D'après 3 enjambées, il s'est retourné, gris sous les cieux, défriché, la mine affreuse. Je crois bien qu'il tire plus vite que moi. L'homme était long, d'une ossature puissante, mais paraissait raccourci par la fatalité de son infirmité. Il était croche, bossu, si l'on préfère, et se tenait à cheval avec une si curieuse assiette que les enfants lui lançaient souvent des pierres au creux des reins, croyant qu'il était ivre. Natif de Nantucket, frère de tous les marins à 15 ans à peine, Northwood avait suivi l'apprentissage de ceux qui, depuis des siècles, s'attellent aux plus étranges, aux plus grandioses combats qui aient jamais opposé l'homme à l'animal. Le regard halluciné, il avait été de ceux, un homme de la baleine, qui, comme Jonas ou le capitaine Ahab, ont vécu dans l'intimité des troupeaux de grands cétacés bleus. Dans les premières années de la chasse du Cap de Bonne-Espérance aux îles Marshall, des Marquises aux Aléoutiennes, Palestine Northwood avait sillonné toutes les mers du globe. Le novice avait hissé misaine et grand voile, brigantine et cacatois, hunier, trinquette, perruche et perroquet de fougue. Il s'était aguerri à mâchouiller une maigre pitance faite de viande séchée, de biscuits rassis, de riz charançonné et de haricots rouges. Il avait appris à se taire, à se battre et à s'accommoder des cafards que le climat glacial du Cap Horn semblait endormir alors que la tiédeur du Pacifique les réveillait plus nombreux que jamais. Il avait fait escale à Swain et à Gardner, à Chase et à Coffin. Il avait baigné son corps endolori dans les eaux phosphorescentes et chaudes des atolls de Polynésie. Il avait déserté à 18 ans son bateau, un 3-mâts carré, le Holy Hope, Captain Fix, lors d'une escale aux îles Sandwich. Pendant presque 6 mois, par 20 degrés de latitude nord et 157 degrés de longitude ouest, il s'était pris d'amour fou pour une indigène, la belle Uka Niva, que la variole avait emportée. Il avait été retrouvé dans un bar d'Honolulu au printemps suivant par le maître d'équipage Kerempton. L'âme damnée du capitaine Fix l'avait embarqué de force sur le Holy Hope. Ils étaient repartis sur le chemin de 1000 tempêtes. Ils avaient échappé de justesse durant l'été 71 aux tenailles des glaces polaires lorsqu'elles se refermèrent sur la flotte baleinière du détroit de Bering. En ce temps-là, comment dire, le bruit de la mer couvait le vol des années. Pendant des nuits interminables, Palestine avait connu la voix des vents hurlants, succédant à l'attrait des mers ouvertes et à la haine des rats au fond de la cale. Il avait également vécu pendant des semaines entières ballotté par la tempête, dans le réduit du Gaillard d'avant, un endroit si humide, si sombre et si pestilentiel que la vermine y grouillait plus que sur aucun autre navire, attiré par l'huile et le sang des baleines. Avec ses compagnons de bord, Suédois ou Irlandais, Basques et Portos, réduits à l'état de bétail, il avait haï ses officiers, côtoyé des fils de famille fourvoyés sur la mer et joué du couteau contre des vauriens, afin de protéger sa paillasse si elle était plus sèche que la leur. Avec ce salaud de Timothy Housset, natif de New Bedford, il avait appris à aiguiser la pointe des harpons, à ramer sur la baleinière sans se retourner et à fumer 6 kilos de tabac par an dans sa pipe. Avec une poignée de Mélanésiens déracinés que le capitaine Jonathan Fix avait affublés de noms tels que Slim, Jack ou Sam, il avait fait 6 campagnes et la dernière avait duré 4 ans. Avec une fierté sans pareille, il était surtout devenu harponneur. Les harponneurs sont des gens importants. De leur adresse dépend le sort de la campagne. Or,
Il se trouve que dès que Jonathan Fix, qui détestait le matelot Palestine, mais mystérieusement l'enrôlait dans son équipage depuis plus de 15 ans, eut confié au marin ce poste prépondérant, il s'aperçut qu'aussi loin qu'il remonta dans le cours de sa longue vie de patron de pêche, personne n'avait encore jamais lancé le Temple Toggle Iron avec une main aussi sûre. Propulsé par les muscles secs de Northwood, le fer acéré de ce harpon à tête basculante, inventé par un petit barbier de Dartmouth, filait vers le cachalot avec une précision et une vélocité telles que ses barbes profondément incrustées dans la chair de l'animal ne lui laissaient aucune chance d'en réchapper.
« Baleine au vent, à nous ! Hurrah ! Hurrah !»
Dès que la vigie avait repéré la baleine, Palestine Northwood s'avançait vers le bastingage.
« Souffle là ! Elle souffle !»
La longue silhouette droite du harponneur se dressait au-dessus des épaules de ses équipiers. Un calme étrange habitait tout son corps. Ses yeux gris posés sur l'horizon, il cherchait à déchiffrer l'énigme des vagues. Le guetteur dans la hune criait encore « Saute là, elle saute !»«
À vos pirogues, enfants !» criait le capitaine Fix.
On lançait les baleinières à l'eau. Des bateaux de 9 mètres sur 2, capables de courir sur la crête des vagues et de transporter 6 hommes, dont un officier, pour diriger la manœuvre.
« Sonde là, elle sonde !»
La baleine venait de plonger. Dos au monstre chimérique, respectant la consigne de ne pas se retourner, les rameurs entamaient la poursuite. Palestine Northwood se tenait à la proue de l'embarcation. Main levée, il glissait au-devant de l'animal, regardait apparaître son front blanchi d'écume et rehaussé d'une tiare de bernacle. Fasciné par la proximité de son corps de grande vache marine, le harponneur s'avançait au-devant de son sourire menaçant, de ses lèvres tordues.
Voilà, nous avons terminé pour ce soir donc la suite de ce roman de Jean Vautrin, Un grand pas vers le bon Dieu, que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.